Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile. On s'apprête à redécouvrir ou à découvrir pour certains d'entre nous sur grand écran Les Fils de l'Homme, Children of Men d'Alfonso Cuarón, dont on va causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Les Fils de l'Homme et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Rafik, une nouvelle fois, un film qui n'a pas trouvé son public à sa sortie, décidément. On les enchaîne en ce moment.
Bah, c'est la raison d'être de ces soirées au Club de l'Étoile. C'est de permettre aux gens de voir enfin sur un bel écran des films qui ont été faits pour ça, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Et de parfois se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je te la pose, la question, Rafik.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'en arriver à qu'est-ce qui s'est passé, il faut savoir d'où on vient
d'où
par
vient
rapport
le film,
à un projet comme Les Fils de l'Homme. Puisque c'est un projet de longue haleine, notamment pour une de ses productrices, Hilary Shore, qui a découvert le roman à l'origine
de Penny
dans
James,
les années, ouais. dans les années 90, et qui a tout de suite mis une option dessus. Mais elle travaillait pour une boîte qui s'appelle Hit and Run Production, qui en fait était surtout dans la musique, qui bossait avec Phil Collins, ce genre de personnes. Et ils avaient très très peu de films à leur actif. Ils avaient produit Eye of the Beholder, qui était un film qui s'appelait Le Voyeur, 99, ouais. Voilà, qui était plus ou moins le même film, que la même histoire que Mortelle Randonnée de Claude Miller. Donc il aura fallu quand même 9 ans à cette nana pour pouvoir monter le projet. En fait, c'est sa rencontre avec Mark Abraham de Strike Entertainment, qui lui est un producteur américain, qui lui voulait aussi les droits du roman. Découvert que c'était ces Anglais qui l'avaient, du coup ils ont fait alliance, mais c'était pas une production majeure, c'est pas un gros studio qui a lancé cette machine. Et donc on sait bien qu'il faut, pour ça, généralement il faut au moins un comédien, un nom et un réalisateur. Et pour ce qui est du réalisateur, ce qui va les mener en fait à Alfonso Cuarón, c'est la position un peu particulière qu'il a à cette époque là parce que Cuarón, en fait, il a eu une première carrière hollywoodienne qui s'est cassée la gueule. Il avait fait un film qui était La Petite Princesse, hein, qui était déjà un film qui était censé se passer en Angleterre.
C'était déjà une adaptation.
Voilà. Et
d'un roman.
Voilà. Et ensuite, ça l'a mené à une plus grosse production hollywoodienne qui était de l'adaptation des grandes espérances de Dickens, qui s'est complètement planté et qui lui a immédiatement brûlé les ailes à Hollywood, qui était aussi un film d'inspiration anglaise. Donc c'est déjà intéressant de voir ce rapport de Cuarón avec pas forcément la culture anglaise, mais l'imagerie. Et donc en fait, il était un peu revenu la queue entre les jambes au Mexique, où il s'est refait avec un film intimiste qui était Y tu mama también, un film aussi un peu dépressif, et vu son expérience. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à la même époque, Guillermo del Toro avait vécu la même chose, hein, puisque après Mimic, il est reparti d'Hollywood. En gros, ces deux amis de longue date se sont dit « on n'y parviendra pas ». En jouant leur jeu. Et donc, Y tu mama también, qui est un film d'une extrême énergie, va pour le coup vraiment séduire l'Académie américaine. Il va être nominé à la fois au Golden Globe et...
Nommé,
sais que tu détestes qu'on dise ça. au Golden Globe et aux Oscars. Donc, même s'il gagne pas, ça refait de Cuarón une valeur sûre, en tout cas quelqu'un qu'on peut mettre sur une affiche. Et donc, on lui propose le projet en 2001. Et au début, lui, bon... Oui, non, il sait pas trop. Et en fait, ce qui l'attire, c'est surtout le pitch. Il a pas envie de lire le bouquin parce qu'il a pas envie.
Il n'en lira d'ailleurs qu'un résumé.
Voilà, tout à fait. Il a le résumé et les adaptations scénaristiques. Mais en fait, le concept l'a tellement nourri qu'il a peur que le bouquin le fasse partir dans une autre
direction.
Et c'est peut-être pas un hasard que ça se passe à cette période-là, parce que le monde est en train de vivre un bouleversement, bon, qui est symbolisé évidemment par le 11 septembre cette année-là. cas, mais qui est un mouvement plus global d'une forme de, on va dire, une nouvelle perte des illusions. Oui. On sort de plusieurs années où il y a eu d'énormes manifestations altermondialistes au G20. On a complètement oublié, d'ailleurs, aujourd'hui, toute l'agitation politique qu'il y avait avant le 11 septembre, en gros, arrive et disent à tout le monde, fermez vos gueules. Oui. Donc, Cuaron, il était quand même dans cette dynamique et attentif aux mouvements sociaux qui se produisent à travers le monde, où en gros l'humanité est en train de dire à ses dirigeants, faites quelque chose, là on va vraiment dans le mur, on sait pas de quoi, mais on va dans un mur, quoi. Et donc je pense que les fils de l'homme, enfin sa vision des fils de l'homme s'est nourrie de ce chaos que le 11 septembre a d'une certaine façon restructuré en un néo-fascisme, je sais pas comment le dire, quoi. Donc il est très excité par l'idée de faire un film d'une certaine façon concept, quoi, mais grâce à son ami Guillermo, il va se retrouver sur un énorme projet qui est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, parce que le film a été proposé en fait à Guillermo, qui après réflexion a décidé de ne pas le faire parce que lui aussi avait décidé de refaire sa carrière hollywoodienne en étant complètement maître et refuser de faire un film où il y avait une batterie de 50 producteurs au-dessus de lui. Bon, Alfonso, lui, était plus souple à ce niveau-là, même si Warner avait peur, parce que quand ils ont vu Thomas Mantambien, ils ont eu peur que Harry et ses copains se fassent des partouzes dans tous les coins. Très vite, le résultat leur a donné raison, et en plus, je crois que J.K. Rowling était très pour, parce qu'elle adorait la petite princesse donc tout allait bien. Mais en fait, sur Harry Potter, avec l'énorme budget qui est mis à sa disposition, il va aussi pouvoir expérimenter quelque chose qu'il envisageait sur un plan esthétique pour les fils de l'homme. Parce que, pareil, à cette époque, donc au début des années 2000, on commence à voir exploser un nouveau type de filmage qui se voudrait un peu chaotique. On va avoir arriver les Jason Bourne, tous ces trucs-là, voilà, qui en gros fait bouger ta caméra dans tous les sens sans te préoccuper du reste, qui donne des films, certes chaotiques pour le coup, mais alors complètement incompréhensibles. Et donc, pour un mec comme Cuaron, il y a l'idée de comment on pourrait obtenir cette sensation-là avec quelque chose de lisible, en fait. Voilà. Et sa source d'inspiration, elle sera la même d'ailleurs que celle de McTiernan sur Die Hard 3, en partie, c'est La bataille d'Alger, de Gillo Pontecorvo, qui est un film indispensable, si vous ne l'avez pas vu. Hein,
1767.
Voilà, suffisamment indispensable pour avoir été interdit en France à l'époque et son réalisateur défoncé par les cahiers du cinéma. Donc, vous savez que vous devez le voir maintenant, et qui est vraiment le film qui a créé ce qu'aujourd'hui on appelle ce langage, handicam, quoi, vraiment près du corps, où t'as l'impression de suivre les personnages dans leurs déplacements, etc. Un langage coup de poing, quoi. Son autre référence, c'est L'Aurore de Murnau. Non, je suis pas censé le dire, c'est un secret. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais bien que l'obédience cinéphile nous interdit de dire que L'Aurore est le plus grand film de toute l'histoire du cinéma.
C'est vrai que c'est en violation de tous nos codes.
Vous nous avez pas entendu, jamais dit ça. L'Aurore, en fait, tout simplement parce que c'est le film qui a vraiment popularisé, enfin, démontré, comment dire, que le filmage impossible ne l'était jamais, quoi, et qu'on pouvait vraiment tout tenter pour non seulement raconter l'histoire, mais surtout traduire un sentiment, quoi, en termes de mouvement de grue, de plan séquence, etc. Et donc, Les Fils de l'Homme, qui est pas vraiment un film à récit, quand on réfléchit bien, il y a une intrigue, il y a un fil conducteur, mais elle est quand même extrêmement ténue.
Qui est très ténue.
C'est plus un film de sentiment, en fait. Mmh. C'est un film qui nous donne l'impression d'un monde plus qu'autre chose. On traverse cet univers. Et Cuaron n'a pas non plus l'intention de faire un film politique comme il les déteste, c'est-à-dire vraiment donneur de leçons, à plaquer des tracts dans la gueule du spectateur. C'est aussi pour ça qu'il privilégie le ressenti, la sensation, et du coup il va énormément travailler évidemment le design et aussi une certaine forme de symbolique, dont une qui a, je trouve, est passée relativement inaperçue, qui est celle des animaux. Le film est rempli d'animaux dans tous les coins, des allusions, parce que en fait c'est une façon pour lui de retrouver le caractère de fable de La Ferme des Animaux de George Orwell, qui avait inspiré d'ailleurs aussi les Pink Floyd quand ils avaient fait l'album Animals.
Tout à fait.
Qui était la version capitaliste de La Ferme des Animaux, qui, elle, parlait du totalitarisme soviétique. Et comme par hasard, évidemment, dans Les Fils de l'Homme, on a une allusion directe à la couverture de cet album, avec le cochon géant qui flotte dans le ciel. Donc il y a Il y a cette idée en fait d'assimiler cette humanité à des animaux en perdition en fait quoi. Ce mur contre lequel la société de tournant des années 2000 bloquait, c'était la perte des illusions, c'est la perte de l'espoir. Et la perte de l'espoir, c'est en gros la perte de tout ce qui fait notre humanité. Nous sommes des créatures guidées. Nous sommes en gros l'espèce humaine est la seule espèce qui a une conscience de l'après, de ce qui vient après. Et elle se construit en fonction de ça. Lui retirer l'après,
c'est lui retirer
son humanité tout simplement. Donc la vraie problème de destruction du monde, de déchéance, elle est là en fait. Quand tu nous retires l'après, il y a plus rien, il y a plus d'humanité. Évidemment, le pitch même du film, qui est donc cette, j'ai plus le mot en tête, mais bon, en gros,
l'infertilité du monde.
Voilà, des humains. On n'a pas besoin de nous rappeler que c'est la perte de l'espoir. En fait, on le comprend immédiatement et encore une fois intuitivement. Donc voilà, c'est comment construire un film qui soit pas un propos politique, mais un sentiment politique. Et puis évidemment, il va falloir après mettre tout ça en œuvre. C'est un gros travail de design qui a pas forcément vocation à être vu en tant que tel. C'est pas Blade Runner au sens waouh, tu t'extasies devant le truc, mais il y a un travail énorme. Juste pour exemple, il y a toute une scène où le personnage de Julianne Moore l'accueille dans une pièce qui est intégralement recouverte de coupures de presse. Toutes ces coupures de presse ont été créées pour le film. C'est-à-dire que il y a des articles en fait sur le mur, vraiment, qui ont été rédigés, etc. par l'équipe, voilà, absolument tous. Donc je vais pas lister comme ça tous les petits détails qui se baladent dans tous les coins, mais les choses ont toujours un sens quoi. On a quand il se fait kidnapper, on le balance dans une camionnette qui porte le nom de Holden & Sons parce que le personnage de la Trappe-Cœur s'appelait Holden, tu vois, et donc ce personnage révolté contre le système.
Holden Caulfield.
Voilà. Bon, je vais pas non plus trop m'attarder sur la symbolique mythologique qui est bon, déjà dans le titre, évidemment, christique par essence du film.
Le groupe de terroristes s'appelle Les Poissons.
Voilà, qui donc est le signe de reconnaissance des premiers chrétiens, underground. Le héros, donc Théo Farron, c'est littéralement le dieu des phares. D'ailleurs, une des boîtes de prod, c'est Beacon Production. Donc, il y a cette idée de lancer une lumière, un espoir et tout ça. Mais il y a une conscience aussi mythologique. D'autant plus mythologique que le Tequila Gang, qui sont donc ces trois réalisateurs, Iñárritu, Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón, ont chacun sorti un film à cette période qui se répondent par leur titre en fait, qui sont le Labyrinthe de Pan, c'est-à-dire celui de la sagesse antique, Babel, qui est celui de la sagesse perse, et Les Fils de l'Homme, qui est celui de la sagesse chrétienne en fait. Donc je vous laisse après déduire ce que vous voulez des rapports que les films entretiennent entre eux à un niveau symbolique et mythologique. Mais c'est là aussi en fait. Encore une fois, c'est un film qui est puissamment politique, mais que ça n'est pas un tract politique. Et c'est peut-être aussi ce qui lui donne sa saveur et sa particularité, je pense, chez un public notamment de geeks comme nous qui détestons en général qu'on leur fasse la leçon, mais qui sont prêts à tout gober si tu nous donnes l'émotion qui va avec, on est prêts à te suivre jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me passe ensuite un court-métrage qui a été fait par Alfonso Cuarón et son fils pour faire la promotion d'un livre qui s'appelle La stratégie du choc de Naomi Klein. Et vous comprendrez, enfin vous verrez en voyant ce court-métrage publicitaire, au ton très particulier, les préoccupations qui déjà, enfin voilà, que Cuarón avait au moment où il travaillait sur Les Fils de l'Homme. Qu'est-ce qui a fait que ce film n'a pas été accueilli comme il se doit?
C'est la question traditionnelle de ce rendez-vous.
Bon, déjà, donc c'est un film qui a été distribué par Universal à une époque où il y avait déjà un glissement de terrain à Hollywood, au sens où ils avaient de plus en plus de mal à vendre des films qui étaient des produits, des prototypes, en fait. Oui. On commençait déjà à pas mal faire du surplace au niveau des franchises. On est dans la grande période Shrek 2 et compagnie, où les Fast and Furious cartonnent et tout ça, et bon. Un film aussi singulier avec un pitch, même si le pitch est puissant, je pense que le pitch est puissant et donne envie aux gens de le voir, le film en lui-même est trop, pas complexe, mais encore une fois, comme il n'y a pas un récit fort derrière ce pitch, bon, il ne savait pas comment le vendre. En gros, il se reposait simplement sur le roman d'origine qui lui-même n'est pas un énorme succès. Voilà. Et Cuarón n'était certainement pas une star, même Harry Potter n'avait certainement pas servi à faire de lui une star. Dès l'époque, dès la sortie du film, je me surprenais, parce que la sortie du film était vraiment quasiment la même que celle de Blade Runner. C'est-à-dire vraiment, on avait un réalisateur qui venait de sortir d'un énorme carton, avec des stars qui avaient été sur des blockbusters juste avant aussi, sur un film qui proposer visuellement un pas en avant. Enfin, on sautait un truc. C'est-à-dire qu'on, à l'époque, le public amateur de fantastique, il était en gros coincé entre la mythologie fantaisiste à la Seigneur des Anneaux ou Harry Potter et pas le rationalisme, mais comment dire, un truc un peu plus ésotérique et intellectuel comme Matrix.
Oui.
Et un film qui était ni l'un ni l'autre et qui nous obligeait, ne serait-ce que visuellement, à franchir un pas, c'était déjà peut-être un peu trop tôt. Donc je pense que ça contribue, parce que c'est ce public-là qui aurait pu faire vraiment décoller le film. Le film, je pense. Il existe, il a fini par rencontrer le film, mais il l'a rencontré tardivement après sa sortie. Donc je pense que il s'est planté en grande partie parce qu'il était difficile à vendre et qu'il parlait encore trop de son époque. Les films qui parlent vraiment de leur époque,
qui mettent le nez directement sur l'époque.
Ouais, généralement l'époque. Elle refuse, en fait. Elle n'est pas encore disposée à les voir. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Je dis pas qu'on est sorti de cette période désillusionnée, mais.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment. on sent qu'il y a un frémissement d'autre chose.
Oui.
Et donc, on est en mesure de regarder ce qui s'est passé derrière nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de regarder Les Fils de l'Homme et se dire, ah oui, psychologiquement, on en était à ce point-là. Ça allait vraiment super mal, quoi. Ça aurait pu descendre encore plus bas si on n'avait pas décidé de se réveiller un peu aux dernières minutes. Donc, c'était un film qui, au même titre que Blade Runner, était condamné à passer à côté du public vraiment de son époque, avant de devenir un film absolument incontournable. Quoi. Aujourd'hui, je suis fasciné et rassuré de voir le nombre de fois où on me cite ce film à tout bout de champ, quoi, parce qu'effectivement, il a créé quelque chose d'assez unique, en plus très difficile à reproduire sur d'autres formules. Visuellement, évidemment, il a son style, bien heureusement, a permis de rénover un peu ce filmage près du corps et à nous faire sortir de ces films hachurés qui nous flinguaient les yeux, quoi. Mais ce sont des films qui sont difficiles à faire. Les plans séquences que vous allez voir là ont demandé non seulement beaucoup de temps mais aussi de faire, comment dire, on fait peur au studio. Je la raconte pas, mais la grande scène finale qui est vraiment un plan séquence complètement dingue a nécessité des jours et des jours de tournage et de répétition, et Universal derrière vraiment tirait la sonnette d'alarme en disant, là, c'est quoi là, il faut vraiment qu'il fasse faire confiance à un réalisateur pour accepter qu'il se lance comme ça dans des trucs aussi. Le film a coûté assez cher aussi parce que au niveau des effets spéciaux, il y a un énorme
73 millions de dollars, je crois.
Un énorme boulot de
ça va.
Comment ça s'appelle, Double Negative et Framestore. Double Negative, ils se sont par exemple, il y a une séquence qui aujourd'hui est devenue célèbre, qui se passe dans la bagnole, qui est filmée en plan séquence avec la caméra qui détaille tous les personnages dans la bagnole alors qu'ils sont en train de se faire attaquer. En fait, ça a été tourné en plan séquence, mais c'est quand même des plans raccordés. C'est-à-dire, il y a plusieurs plans séquences qui sont raccordés les uns aux autres, et les cascadeurs dans cette scène, en fait, sont incrustés numériquement. Donc, il y a à la fois un exploit de tournage. Donkey Cam System avait développé un rig, en fait, qui était... c'est un peu compliqué.
Sans les images, voilà. C'est dur.
Mais en gros, c'est pas une vraie voiture. Ils sont pas dans une vraie voiture.
Ils sont pas dans une vraie voiture.
Framestore, donc, a fait un boulot extraordinaire avec... un être humain numérique que je ne décrirai pas parce qu'il est à la fin du film,
dévoiler, effectivement.
Voilà, et qui est passé comme une lettre à la poste.
Ah, oui.
Pas un spectateur qui a percuté à l'époque. Donc voilà, et faire des effets spéciaux aussi complexes et invisibles, ben ça coûte bonbon aussi. Et c'est pas payant immédiatement. C'est-à-dire que pour le public, c'est pas spectaculaire en fait, contrairement à un hippogriffe par exemple. Donc le film, il
n'y a pas d'hippogriffe dans Les Fils de l'Homme. Je tiens à vous prévenir. Je suis désolé.
Donc il a un peu payé le prix de sa recherche comme ça de naturalisme qui aujourd'hui est payant puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens admirent le film. Donc voilà.
Remercions
le temps d'avoir fait son œuvre et d'avoir permis à ce film de devenir ce qu'il est aux yeux de beaucoup de gens qui le considèrent comme un classique. C'était vraiment pas gagné la semaine de sa sortie. Donc merci à tous ceux qui le voient et le revoient. Donc merci à vous.
Merci à vous et merci à toi Rafik. Merci au Club de l'Étoile et donc à vous au public pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.